Merci Rachel, bonjour à tous. Merci aux organisateurs de me donner l'opportunité de présenter sur un sujet sur lequel je n'ai encore jamais présenté. Donc les enjeux éthiques autour donc, du don de plasma, donc du donneur au patient. Mes conflits d'intérêts ou liens d'intérêts, en effet je travaille à l'établissement français du sang qui est responsable de la collecte du plasma en France. Je vais plutôt être au titre de l'Alliance européenne à la transfusion, l'EBA. Donc deux mots sur cette alliance, cette association qui regroupe 25 pays membres. Vous avez tous sur ces diapositives, de manière assez large, la transfusion publique en Europe. Il y a également quelques membres qu'on appelle candidats. Ils sont bien membres, mais candidats à l'intégration dans l'Union européenne. Par exemple, très récemment, l'Ukraine a rejoint l'EBA. On en est très heureux. Cette alliance donc est là pour permettre une transfusion de qualité, une transfusion pour laquelle on va partager un certain nombre de valeurs que je suis sûr qu'on partage tous, le soin des patients, la santé des donneurs, le don volontaire et gratuit, une approche collaborative grâce au partage d'informations et l'excellence fondée sur les faits. Alors, quand on réfléchit éthique autour du don de plasma et du devenir de ce don, à savoir ces médicaments dérivés du plasma, et en particulier les immunoglobulines, il s'agit, et puis en fait mon propos va tourner autour de cet aspect des choses, qui est de concilier deux exigences éthiques qui pourraient paraître par moments pas contradictoires, mais qu'on va voir sont tellement liées. D'une part, assurer l'accès des patients à des médicaments essentiels, ces médicaments issus du plasma, et qui est réalisé grâce aux donneurs de sang, et aussi assurer la santé, la dignité et la non-exploitation de ces mêmes donneurs de plasma, et ceci grâce aux dons volontaires et gratuits. Alors, ce n'est pas à vous que je vais rappeler à quoi c'est, enfin, ces immunoglobulines, ça fait partie de ces médicaments donc dérivés du plasma, d'autres catégories, l'albumine par exemple, les facteurs de coagulation. Juste peut-être bien insister sur le fait que ces immunoglobulines, qu'elles soient IV ou sous-cutanées, c'est bien la même chose, des immunoglobulines soit polyvalentes, avec des indications que vous connaissez, ou des immunoglobulines plus spécifiques, et là vous avez une petite liste très incomplète, et bien entendu, quelque chose que vous connaissez beaucoup mieux que moi, c'est l'immunoglobuline anti-D. Alors peut-être la première chose à considérer, c'est lorsque, et c'est souvent un sujet que je trouve, est la perception que l'on a des immunoglobulines, telles qu'elles ont même pu être discutées ce matin. Ces immunoglobulines ne sont pas issues du génie génétique, elles ne sont pas issues d'un établissement pharmaceutique. Elles sont issues d'un produit, d'une substance d'origine humaine, de donneur. Et ce point est assez important, et je ne suis pas sûr qu'on se rende compte, toujours compte du nombre de donneurs qu'il y a derrière un traitement. Donc là, je vous donne juste un exemple donc, d'une indication qu'on va qualifier de béton, hein, qui sont les déficits immunitaires primitifs. J'ai pris l'HAS de 2019, aucune discussion sur l'indication. Il y a, c'est donc 0,4 grammes kilo toutes les 3 ou 4 semaines. Et je ne vais pas décliner un petit peu ce petit schéma-là, mais si vous considérez cette posologie, le poids du patient à 70 kilos, le fait qu'on, la quantité de plasma dont on va vouloir, c'est 9 dons d'aphérèse, un traitement. C'est 9 dons d'aphérèse. Et si on dit que ce donneur va donner 3 fois par an, et je suis optimiste, actuellement, ce donneur qu'on va remercier va donner entre 2 et 3 fois. Ça veut dire que vous mobilisez 3 donneurs pendant 3 ans pour un traitement. Et si maintenant vous envisagez un an de traitement, ce qui est tout à fait évidemment envisagé, et même plusieurs années, vous voyez qu'on est à 108 dons et plus de 36 donneurs mobilisés pendant un an, dans le contexte du don, en tout cas volontaire et gratuit. Donc c'est juste pour positionner le sujet, et je crois en permanence se rappeler ce contexte-là. Alors ces immunoglobulines polyvalentes, avant d'aborder brièvement les immunoglobulines anti-D, donc juste cette carte mondiale qui rappelle plusieurs choses. D'abord, une augmentation considérable entre 2018 et 2026 de la consommation, à peu près 60%. Est-ce que ça va se poursuivre ou pas? Est-ce que des nouvelles indications type maladies neurodégénératives? Est-ce que les anticorps anti-FcRn va peut-être baisser un peu cette consommation, bien que j'ai appris ce matin que derrière les anticorps anti-FcRn, des fois on redonne des immunoglobulines. Donc c'est pas sûr. Mais en tout cas, l'autre chose que je vais faire remarquer ici, vous voyez que l'Afrique est vide. L'Asie est très peu représentée. Donc c'est très certainement des endroits où on va avoir des demandes, évidemment, et légitimes d'immunoglobulines à laquelle ces populations n'ont pas accès. C'est évidemment un enjeu éthique. Cette consommation d'immunoglobulines, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais simplement pour souligner ici quelque chose d'assez évident, je crois, c'est... On a toutes sortes de consommation en Europe. Pour des mêmes indications partagées, des mêmes rationnels scientifiques, vous voyez qu'entre la France, par exemple, et puis l'Italie, on est pas loin de 2 fois plus. Donc il y a un sujet aussi de lutte sur l'utilisation et sur le bon usage de ces immunoglobulines. Alors, maintenant qu'on a dit que c'est super important, qu'est-ce qu'il en est de notre capacité à traiter nos patients. Ça peut se mesurer en termes de souveraineté nationale, souveraineté européenne ou d'autosuffisance. C'est bien ces mêmes termes et je crois que c'est très important. Actuellement, nous produisons en France du plasma qui couvre 35% de nos besoins. C'est très largement insuffisant, bien entendu. Si on prend globalement l'Europe, parce qu'on a envie de réfléchir à l'échelle européenne, à l'échelle d'une solidarité européenne, c'est mieux, mais ce n'est pas beaucoup mieux, on est à 60%. Et le 40% qui manque, il émane donc des États-Unis. Et c'est aux États-Unis, avec, on va en reparler, et puis les élections récentes, les changements politiques récents, nous rappellent que la géopolitique n'est jamais très loin, et que s'il y avait des besoins ou des pénuries aux États-Unis à un moment donné, très légitimement, je crois pouvoir dire, on serait les premiers à ne pas être servis. Et de plus, cette rémunération aux États-Unis se fait dans des conditions sur lesquelles je reviendrai, mais elle repose sur une rémunération des donneurs, et surtout en situation de précarité économique. Alors des pénuries, on en a. Alors ça, c'est juste issu de l'Agence européenne du médicament. C'est l'année dernière. Vous voyez une longue liste de pays, y compris la France, qui ont connu des pénuries. Donc ce n'est pas du tout théorique. C'est quelque chose qui peut arriver. Les antidés, alors ce n'est pas à vous que je vais apprendre, bien entendu, cette histoire magique. Ce que l'antidé a permis en termes de réduction de la mortalité, alors aussi avec la transfusion in utero. Mais en tout cas, face à cela, quelle est notre capacité à traiter ces patients dans les années à venir? Si on regarde l'autosuffisance, 0%. Nous ne produisons pas d'antidés actuellement. Et l'Europe, alors j'ai mis 2%, je suis sympathique, parce que l'Ukraine, incroyable, non, l'Ukraine produit de l'antidés, mais personne d'autre. Donc là, on a un vrai problème. On a un vrai sujet là de disponibilité, quelque chose qu'on peut penser comme étant très naturellement là, vous l'avez, votre flacon là. Mais derrière, évidemment, des donneurs, et actuellement, on n'en collecte pas en Europe. Et voyez que des pénuries, il y en a. Et là, ce n'est même pas en Europe, c'est aux États-Unis. Là où tous ces antidés sont produits, il y a malgré tout des pénuries. Donc comprenez que derrière, si ces pénuries s'aggravent, à nouveau, les Américains vont se servir d'abord et on sera en difficulté. Alors pour faire tout ça, on a donc des donneurs, et fort heureusement des donneurs. Et juste pour rappeler un peu comment les choses s'organisent, deux types de dons. Le sang total, on va en extraire des composants sanguins, des globules rouges, des plaquettes et du plasma. Ce plasma peut être utilisé directement ou peut aller vers le fractionnement. Autre source de plasma, c'est la phérèse plasmatique ou la phérèse plasma plus plaquettes, qui va donc conduire à du plasma et à des médicaments dérivés du sang. Alors, le contexte dans lequel on se place, si on revient un peu à un contexte éthique, il s'organise à l'échelle européenne, et c'est fort heureux que ça soit dans ce sens. Et on est encore, alors pas longtemps, j'y reviendrai, donc dans le cadre donc de ce qu'on appelle les directives sang de 2002, ces directives établissent des normes de qualité et de sécurité concernant le sang humain et les composants sanguins, et puis dans ce cadre, les mesures nécessaires doivent être prises afin d'encourager les dons de sang volontaires et non rémunérés. J'insiste sur le fait que c'est de l'encouragement, ce n'est pas rendu obligatoire, c'est de l'encouragement, vous verrez la nuance par rapport à des évolutions donc plus récentes. Donc pour cela, ce don volontaire et non rémunéré permet un niveau élevé de normes de sécurité, et là pour la protection de la santé publique, et pour cela, l'Union européenne donc, fait appel à la définition du Conseil de l'Europe. Alors ne pas confondre l'Union européenne et le Conseil de l'Europe, Le Conseil de l'Europe, ça prédate l'Union européenne, c'est 49 membres, c'est pas 27, enfin, c'est quelque chose qui il y a les mêmes membres, c'est un peu différent, c'est très dans le droit et le droit international. Et voici la définition de ce don volontaire et non rémunéré. Il doit être de son plein gré, il doit ne lieu à aucun paiement. Il peut y avoir un élément de compensation en lien avec les désagréments liés à ce don, de modestes marques de reconnaissance. Donc ça, c'est la définition. Et en fait, c'est intéressant, le Conseil de l'Europe a pas mal travaillé au jour de ces enjeux éthiques, avec notamment ce document qui a été produit en 2018, et la proposition finalement de travailler sur une échelle. Et une échelle qui permet finalement de décider qu'un don est bien avec une neutralité financière, de ramener la définition du don volontaire et gratuit à la notion de neutralité financière. Le donneur ne doit pas se retrouver plus riche après le don qu'avant le don. Et là, c'est une idée générale, et vous avez donc une échelle de 1 à 5. À 1, on démarre avec une simple information, donc là, on est tout à fait dans le geste altruiste, et en 5, on est sur une rémunération où, en effet, il y a un bénéfice direct pour ce receveur, et on est sorti du cadre altruiste, et donc sorti du cadre tel qu'il est promu par l'OMS, par l'ISBT, par un grand nombre d'organisations internationales. Ceci n'empêche pas qu'en Europe, on a une situation relativement hétérogène, et notamment sur la collecte de plasma, ce dont on veut bien sûr parler aujourd'hui. Et voyez en vert les zones où on est sur la collecte de plasma, donc à partir d'un don volontaire et gratuit, et quelques pays là au milieu, l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie et la Tchéquie, où le don compensé, alors ça c'est la terminologie officielle, je crois qu'on peut l'appeler une rémunération financière, est de mise pour le don de plasma. Et associé à cela, on va avoir des fréquences de dons, je vais y revenir, qui vont être plus importantes dans l'autorisation qui est requise que par exemple en France. En France, on est à 24 dons maximum, et je vous ai dit, on est actuellement entre 2 et 3 dons par an. Alors, on espère faire mieux, mais ce n'est pas le cas actuellement. Et vous voyez qu'en Allemagne, on monte jusqu'à 60 dons, en Autriche, on monte jusqu'à 50 dons, et c'est des tendances similaires. Et en fait, quand vous regardez, je vais insister sur cette notion de fréquence, parce que la compensation, le paiement, il est réalisé pour que les donneurs reviennent souvent. C'est la notion de fréquence. Et après, on va voir ce que ça veut dire pour le donneur de venir fréquemment donner 700 à 800 millilitres de plasma. Et donc là, vous voyez qu'on peut faire une relation assez directe, que j'ai fait personnellement, entre les pays, par exemple la France, où on n'a aucune rémunération. Vous voyez qu'on est à un maximum autour de 24 dons par an. Et que si vous passez en Allemagne, vous êtes à 60. Et aux États-Unis, où le don est autorisé 2 fois par semaine, on a plus de 100 dons par an. Vous voyez qu'on est sur des niveaux de rémunération qui ne sont pas les mêmes. Donc le fait de rémunérer n'est pas spécialement gentil. Il est là pour que le donneur revienne. Donc, malgré tout, c'est efficace en termes de collecte de plasma. Et c'est là où ça nous place en difficulté, et notamment la difficulté peut-être éthique par rapport aux patients. C'est qu'actuellement, le carré vert, là, vous avez les 4 pays où il y a du don rémunéré, et vous voyez qu'en fait, ils collectent plus de plasma que ce dont ils ont besoin. Alors, ça n'empêche pas qu'il y ait des pénuries dans ces pays, hein, parce qu'après, c'est organisé à l'échelle internationale, et ça peut arriver. Et vous voyez que d'autres pays, la France, par exemple, à droite, là, on produit, mais on ne produit pas assez, c'est les fameux 30% dont je vous parlais. Donc ça, c'est une difficulté qu'il faut donc, bien entendu, tenir compte. Ce qui est important, c'est que le facteur limitant, pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de plasma ? C'est plutôt des notions d'organisation, des notions de prise en charge financière de ce plasma, parce que les donneurs, ils sont bien présents, les donneurs sont là, et ils peuvent donner, la preuve en est ici, sur par exemple la Belgique ou le Danemark, vous avez de l'évolution hein, depuis 1972 jusqu'à 2019, vous voyez que par moment, on a produit beaucoup plus que maintenant. En France, c'est pareil. On est passé par un pic en 1992, on avait un degré d'afférence plasmatique qui était très important. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Là, en gros, je vais le dire, c'est la faute à l'Union européenne, c'est l'introduction du marché commun en 1993, c'est la mise en concurrence, et c'est une mise en concurrence un peu sauvage qui ne fait rien pour assurer le maintien d'une collecte de plasma dans le secteur public. Donc ces considérations-là nous conduisent à penser à différentes organisations. Vous aurez compris, un côté le don rémunéré fréquent, et le don non rémunéré moins fréquent. Donc là, dans un schéma un peu général sur lequel je vais passer un petit peu rapidement, vous avez donc ces donneurs dont je rappelle qu'ils sont aussi des donneurs de sang total, donc des donneurs de globules rouges, des donneurs de plaquettes, 100% d'autosuffisance. Ces donneurs, donc au travers de ces dons sang total, contribuent au moins en partie à ce plasma qui est fractionné, qui va donner les médicaments dérivés du sang. Mais vous avez le don d'afférèse, ce don essentiel, important, c'est finalement la variable sur laquelle on peut jouer, augmenter ou diminuer cette afférèse. Vous avez le choix entre une afférèse de basse fréquence, telle qu'on veut le promouvoir au sein de l'EBA en France et dans beaucoup d'endroits, ou un don haute fréquence, et qui va jusqu'à, je le rappelle, jusqu'à 110 dons aux États-Unis. Et c'est deux systèmes qui sont vraiment très opposés. Celui à haute fréquence, sollicitation fréquente d'un nombre restreint de donneurs, repose au moins partiellement sur l'insécurité financière, je vous donnerai des exemples. Possible risque pour la santé des donneurs, je vous donnerai également des exemples. Teneur moindre de protéines, forcément, ces donneurs sont déplétés en protéines, vous collectez un plasma qui a moins de protéines, moins d'immunoglobulines. Et en fait, c'est le dispositif qui existe aux États-Unis. Et tout ceci conduit possiblement à des risques autour des compétitions pour les produits. Je vous rappelle les situations en Asie, peut-être les situations en Afrique demain, et qu'on se retrouve dans des situations de compétition. A contrario, le don basse fréquence, sollicitation moins fréquente d'un don plus important de donneur, un don plus respectueux de l'éthique et de la santé des donneurs, une seule base donneur qui passe d'un don sans total à un don d'afférèse. Et un même dispositif d'hémovigilance, et vous verrez que c'est important de pouvoir suivre ce que font exactement ces donneurs et les suivre donc à distance, notamment pour leur santé. Alors, ce qu'il en est de tout cela, vous avez vu, c'est un sujet sur lequel je voudrais me focaliser là 2 minutes, c'est celui de la santé de ces mêmes donneurs. Actuellement, on sait peu de choses. Avec des collègues et au sein de l'EBA, on a récemment produit deux papiers de revue. Mais en gros, c'est pour dire, on ne sait pas. Sur des aspects d'effets à long terme de ces déplétions protéiques chez ces donneurs fréquents, sur qu'est-ce qu'on peut faire pour identifier les donneurs qui seraient à risque, Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir éventuellement, comme on peut faire par exemple sur le don de sang total, en donnant du fer dans le contexte d'une carence martiale derrière un don de sang total. Toutes ces choses, on ne sait pas aujourd'hui. Et je dirais que l'industrie très impliquée dans le don rémunéré, pour le moment, ne produit pas grand-chose et on est dans la difficulté. C'est pour ça que je voudrais souligner cette étude réalisée par nos collègues de la Croix-Rouge belge, donc dans le contexte à nouveau qui est le nôtre, et qui ont réalisé un essai randomisé. Un essai randomisé comparant un pas de don, un don une fois par mois, un don trois fois par mois et un don deux fois par semaine, comme aux États-Unis, et regarder un certain nombre de paramètres. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est assez éloquent. Voilà le taux d'IgG au fil du temps, de J0 à J84. C'est rapide, hein, parce que ça arrive très rapidement. Et vous voyez qu'avec une haute fréquence, vous avez une hypogammaglobulinémie franche, en dessous des 6 grammes par litre, c'est une définition de l'hypogammaglobulinémie, et qui s'installe. Combien de temps ça dure? Je crois qu'on ne sait pas pour le moment. Qui est vraiment impacté par cela? Quels sont les effets à long terme de cette hypogammaglobulinémie qui est très particulière? C'est une déplétion régulière. Il n'y a pas d'équivalent en pathologie. On connaît les hypogammaglobulinémies de LLC, des déficits immunitaires. Mais là, il y a des enjeux particuliers et qui doivent nous conduire à dire attention, qu'est-ce qu'on peut dire sur les risques à long terme? Donc ceci est simplement pour souligner un aspect, je crois, éthique, hein, à laquelle on doit évidemment être très impliqué, et aussi le deuxième contexte là au milieu, et là je prends juste quelques publications et un papier récent sur, je vous laisse lire le titre, hein, vous comprenez, sur ce qui se passe le long de la frontière mexicaine, hein, donc avec une accumulation de centres de collecte, hein, qui ne sont pas là pour rien, avec des donneurs mexicains qui arrivent, qui font du don haute fréquence, avec des impacts sur leur santé, qui sont devenus complètement dépendants économiquement de cette situation. Alors hélas, ce n'est pas qu'aux États-Unis que ça arrive. Et là, récemment, c'est un article dans le Guardian, que je suis sûr que vous connaissez, et qui évoquait ce qui se passe en Hongrie, donc au sein de l'Union européenne. Et là, en Hongrie, donc je vous laisse lire, ce qui est entre guillemets, c'est le journaliste, hein, pour beaucoup, et notamment à la population la plus marginalisée, les Roms, le don de plasma sanguin est devenu un moyen de survie. Donc en Hongrie, grosse collecte de plasma, normalement encadrée du point de vue de sa rémunération, 18 euros, c'est déjà un peu sur le haut, mais on pourrait dire que c'est raisonnable. Bon, mais en tout cas, aucune réglementation sur les incitations supplémentaires. C'est pas plus de 2 dons par semaine, excusez-moi, je me suis trompé là, je pense, c'est 2 dons par mois, mais aucun mécanisme efficace ne permet de suivre la fréquence réelle. Donc ce journaliste a rencontré des donneurs qui avaient donné plus de 300 fois. Et dont les photos, vous les voyez là, c'est ces pauvres individus. C'est clair qu'il y a un impact sur la santé de ces individus. C'est des personnes qui sont exploitées, subtilement encouragées par les entreprises pour minimiser les risques et glorifier la noble idée de sauver des vies. Alors, l'autre aspect peut-être, aussi, sur lequel je voudrais souligner, c'est, là, le titre que j'ai mis est un peu provocateur, un don plasma qui peut conduire à l'organisation d'une pénurie. Récemment, ça a été rapporté par la Roumanie à l'OCDE. Il y a eu 5 entreprises du fractionnement ont été poursuivies et ont été sanctionnées, 71 millions d'euros, pour avoir organisé la limite sévère des quantités de produits d'hémoglobine sur le marché pour obtenir l'obtention de profits plus élevés. À un moment donné, il n'y avait plus d'hémoglobine en Roumanie. Et quand vous pensez que c'est des donneurs, hein, qui sont au départ de ça, pour qu'ensuite ça soit bloqué par entente, une espèce de cartel, entre l'industrie pharmaceutique, c'est quelque chose que je crois est évidemment extrêmement critiquable et il faut le garder bien en tête. Alors, face à tout ça, que dit le BA? Le BA, évidemment, donc, veut militer pour accroître la collecte de plasma à but non lucratif, hein, pour réaliser finalement ce double enjeu éthique, hein, soit vis-à-vis des receveurs et vis-à-vis des donneurs, évidemment pour assurer une autosuffisance européenne, pour préserver la santé des donneurs, pour sauvegarder l'approvisionnement en produits sanguins labiles, je n'en ai pas trop parlé, mais là, par exemple, prenez l'Autriche, vous prenez la ville de Vienne, vous avez un site qui fait du don non rémunéré, à 100 mètres du don rémunéré. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous rendez bien compte de ce qu'il en est? Vous mettez en danger la capacité de produire des produits sanguins, les autres produits, hein, pas que les immunoglobulines, les globules rouges, les plaquettes, par exemple. Donc, le don rémunéré, non rémunéré en Europe, c'est un enjeu stratégique, important, qui mérite un soutien financier spécifique, on en a déjà eu de l'Union européenne, mais aussi des États membres. L'État français s'est engagé actuellement aux côtés de l'EFS pour augmenter le prix du plasma que l'on peut céder, de façon à pouvoir financer donc l'augmentation de la collecte. Ce sont des éléments tout à fait importants. Ça pourrait devenir un service d'intérêt général de l'Union européenne, comme ça a été dans d'autres cas. Un exemple de ce qu'a fait le BA, c'est un gros projet qui a été cofinancé par l'Union européenne, qui a réuni une quinzaine donc d'États membres autour de toutes les modalités de collecte de plasma pour partager sur les meilleures façons de procéder. Alors, pour terminer donc là, sur l'environnement européen, je vous parlais des directives de 2002. Ces directives vont être remplacées par un règlement. Et le règlement dit SOHO, donc substance d'origine humaine. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la différence entre des directives et un règlement. Une directive, c'est transposable. C'est-à-dire que les États membres, ils peuvent choisir un petit peu, enfin, pas complètement, mais en gros, ils peuvent arranger un peu la chose. Un règlement, pas du tout. C'est directement opposable dans chacun des pays. Et donc, ce règlement SOHO, là, qui a été publié il n'y a pas longtemps, donc en juillet 2024, il y a une phase de mise en œuvre, donc ça va être implémenté en août 2027. Ce qui est important, c'est que le principe de don volontaire et non rémunéré est réaffirmé. Et cette fois-ci, il est clairement marqué une incitation financière au don n'est pas autorisée. C'est assez différent. Par contre, on autorise une compensation. Et c'est là où on va avoir une discussion sur comment les choses vont pouvoir se passer. Mais c'est un point, je crois, important et qui devrait sans doute nous aider par rapport à la situation que j'ai pu vous décrire jusque-là. L'importance de la protection des donneurs est affirmée. C'est quelque chose qui n'était pas dans la directive 100 de 2002. Il y avait la protection des receveurs, mais on n'évoquait pas la protection des donneurs. Et la nécessaire résilience de la base donneur, de façon à mieux servir les besoins des patients, est réaffirmée également. Alors un petit peu donc en conclusion, hein, l'accès des patients aux médicaments essentiels et la santé des donneurs, ben, c'est évidemment des droits fondamentaux. L'autosuffisance européenne en médicaments issus du plasma, ben, c'est un enjeu de souveraineté majeur, j'espère que je vous en ai convaincu. Le don plasma volontaire et gratuit, ben, c'est un élément contributif essentiel à la santé. Grâce à ça, vous n'augmentez pas la fréquence. Si vous n'augmentez pas la fréquence, vous avez beaucoup moins d'enjeux autour de la santé et vous avez en plus un plasma qui est plus riche en immunoglobulines. La mise en cause de la santé des donneurs mettra en danger le don de plasma et ainsi pourrait obérer l'accès des patients à ces médicaments essentiels. C'est pour ça que je vous dis que ces deux tensions éthiques, en fait, elles sont liées. Le jour où, dans la grande presse, dans les médias, un peu partout, hein, TikTok, où on veut, on commence à discuter sur le fait que le don de plasma, c'est dangereux, ben, qu'est-ce qui va se passer? On va tout mélanger, on va mélanger avec le don de sang total, on ne va pas pouvoir expliquer que nous, on fait différemment que les autres. Vous mettez clairement en danger l'approvisionnement en médicaments essentiels pour les receveurs. Donc face à ça, donc le don du sang et le plasma, un don impliquant la personne humaine, nous trouvons devrait relever intégralement de la sphère publique. C'est des substances d'origine humaine, c'est comme pour les greffons, c'est comme pour la greffe, hein, c'est le pouvoir public qui s'en occupe, c'est pas le privé. Les établissements de la transfusion sanguine, de la transfusion publique européenne sont engagés dans une augmentation de la collecte. Je vous donne un petit exemple. J'en ai pas assez parlé. La reprise de la collecte de plasma anti-D en Europe doit être envisagée. Nous engageons des actions. Des établissements en transfusion répondent présents, hein, dans ce sens, mais ce n'est pas encore fait. Et bien entendu, l'engagement et le soutien financier des pouvoirs publics aux côtés des établissements de transfusion et des donneurs de plasma est tout à fait déterminant. Toute dernière diapositive, pour être positive dans ce contexte, le règlement SOHO, je vous laisse le lire, hein, donc celui qui est là maintenant en place, il appelle à accroître les capacités de prélèvement et la base de donneurs dans le contexte donc du don non lucratif. Donc c'est clairement un message très fort pour nos autorités pour augmenter cette capacité de collecte. Et là, je vous montre ce que fait le Danemark, un pays, certes, pas un grand pays, en tout cas en termes de population, mais vous voyez qu'en 2014, c'est le jaune, hein, il n'y avait aucune affaire, il n'y avait que le plasma issu de sang total. Vous voyez qu'en 2023, ils ont augmenté de manière considérable leur capacité, et en 2030, ils seront autosuffisants. Ils sont passés à une capacité complète de production avec quelque chose de très vertueux sur le plasma qui est collecté chez les donneurs danois, pas nécessairement en retour chez les patients danois, mais un contrôle sur là où ça va et pour permettre d'éviter les choses que j'ai pu vous montrer qui ont eu lieu donc, en Roumanie. J'en finirai par remercier bien sûr les tout premiers, là, ceux qui permettent cela, les donneurs de sang, pour leurs gestes altruistes et solidaires. Merci beaucoup.